Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans une stratégie de contenu que j'ai trouvée vraiment fascinante.
Oui, pour une toute petite entreprise familiale, c'est ça qui est intéressant.
Exactement. On parle de l'ami Pierre, il loue des kayaks en Belgique à Halles-sur-Semois. Et leur grand défi, c'est comment exister face à des concurrents beaucoup, beaucoup plus gros.
C'est la question centrale. Comment on transforme un simple site de réservation en une référence pour toute une région?
Surtout avec la création récente du parc national de la vallée de la Semoire, j'imagine. L'enjeu, c'est de sortir de la transaction pure.
Voilà, il s'agit de créer une connexion qui soit à la fois éducative et émotionnelle. C'est vraiment le cœur du projet.
D'accord. Alors, allons-y. Le premier axe, si j'ai bien compris, c'est la connaissance, l'expertise. Et j'ai lu un truc qui m'a tout de suite interpellé.
Ah oui,
Le kayak ne serait pas un sport de bras, mais un sport de tronc. La puissance viendrait de la rotation du buste. Ça change tout.
Ah, mais c'est totalement ça. C'est contre-intuitif, mais c'est la base. Et cette expertise, ils la rendent hyper accessible.
C'est-à-dire?
Par exemple, avec un concept qu'ils appellent la lecture de rivière pour les nuls.
J'aime bien le nom.
Et c'est très visuel. Ils expliquent la règle du V. Le courant à la surface de l'eau forme des V.
D'accord.
Si la pointe du V est dirigée vers l'aval, c'est le chenal, c'est le passage sûr. En revanche, si la pointe remonte vers l'amont...
Là, il y a un piège, un rocher caché, quelque chose comme ça.
Exactement. C'est un conseil tout bête, mais ça transforme immédiatement un débutant en observateur actif.
Ah oui, on n'est plus passif dans son kayak, on commence à lire la rivière.
On dialogue avec elle, en fait. Et cette notion de dialogue est centrale.
Et donc, j'imagine que l'étape d'après, c'est de respecter aussi la vie qu'il y a dans et autour de cette rivière.
Précisément. Et là, ils ont une idée que je trouve assez géniale. Ils ont créé les Big Five de la Semois.
Ah, comme pour les safaris en Afrique? J'adore l'idée.
C'est ça. Du coup, on ne fait plus juste une balade. On part en mission pour tenter d'apercevoir des espèces emblématiques.
Comme quoi, par exemple?
Le martin pêcheur, qu'on surnomme la flèche bleue. Ou même la très discrète et protégée cigogne noire.
Ça transforme la sortie à une sorte de quête, en fait.
Mais ça va plus loin qu'une simple liste. C'est associé à un vrai code de conduite. Par exemple, si on a la chance incroyable de voir une cigogne noire...
On fait quoi? Hein, on s'arrête?
On arrête immédiatement de pagayer. Et on se laisse juste dériver en silence pour ne pas la déranger.
Je vois. La nuance est importante.
Oui, on ne vend plus une descente en kayak, mais une exploration respectueuse d'un sanctuaire naturel.
Ça change complètement la proposition de valeur. On n'achète plus une activité, on adhère à une philosophie. Et j'ai l'impression que cette philosophie, elle s'ancre aussi dans l'histoire locale.
Totalement. C'est le troisième pilier, le storytelling culturel. Le paysage est rempli d'histoires.
Les fameux séchoirs à tabac.
Exactement. Ces grands bâtiments en bois qu'on voit depuis la rivière, ils ne sont pas juste là pour décorer. Ils racontent un microclimat. Un savoir-faire, l'arôme si particulier du tabac de la Semois.
On pagaie à travers une sorte de musée à ciel ouvert.
Et un musée avec des secrets. L'histoire du coin n'est pas si lisse que ça. Il y a tout un pan sur la contrebande.
À la contrebande?
Eh oui, la frontière française est juste à côté. Et il y a des récits assez incroyables de fraudeurs qui utilisaient des chiens dressés pour passer le tabac, ou qui marchaient sur des échasses.
Attendez, sur des échasses? C'est incroyable!
Pour ne pas laisser de traces.
Voilà.
Et ça, quand on le sait, on ne regarde plus la berge de la même façon. Et puis, il y a aussi les légendes locales. Comme celle de la pierre à marier. C'est un rocher spécifique sur le parcours. La tradition voulait que les jeunes couples s'y assoient pour assurer la fertilité de leur union.
Un simple rocher devient une halte romantique, culturelle.
C'est ça. On donne une âme au trajet.
Donc, si on résume, la stratégie est limpide. On a d'un côté l'expertise pratique, de l'autre la conscience écologique et enfin l'ancrage culturel.
Oui. En liant un conseil pour mieux pagayer, une invitation à observer la faune et des récits qui donnent vie au paysage, l'ami Pierre crée une valeur qui dépasse de loin la simple location.
La valeur n'est plus du tout la même, en effet.
Exactement. Et ça nous laisse avec une pensée pour conclure. Cette approche qui transforme une petite entreprise en gardienne du patrimoine local, est-ce que c'est la nouvelle norme pour survivre dans les zones touristiques protégées?
Ou est-ce que, au contraire?
Ou bien, en scénarisant l'authenticité à ce point, ne risque-t-on pas de la vider de sa substance pour n'en faire qu'un produit marketing de plus, aussi bien ficelé soit-il? C'est une tension intéressante, je trouve.